Bonjour tout le monde et bienvenue dans Sabienza. Il prenait son inspiration pour me dire bonjour et je ne l'ai pas calculé, c'est Fabrice Fenouillère.
Bonjour à vous, mais surtout bonjour à nos auditeurs.
Bonjour monsieur. Aujourd'hui, nous allons parler vagabondage d'esprit, interprétation de la réalité, représentation de l'invisible et de l'abstrait en explorant les liens intimes, complexes, multidimensionnels, pouvant être tissés entre art et physique quantique, deux domaines qui pourraient paraître très éloignés, mais qui, on va le voir avec notre invité, sont intimement intriqués. Cet invité, c'est Charles-Antoine, docteur en physique théorique, chercheur au laboratoire de physique théorique de la matière condensée et maître de conférences à l'université Pierre et Marie Curie à Jussieu.
Oui, mais Charles-Antoine, c'est plus que cela, Isabelle. Il est également passionné par l'histoire, la philosophie et les arts sur toutes leurs formes. Il aime à explorer précisément de nouvelles manières. Voilà, de transmettre les connaissances les plus pointues en science, et la physique quantique demande comme ça d'avoir de l'imaginaire, et donc à ses côtés on va comprendre eh bien, comment les idées scientifiques ont pu influencer la création artistique et vice-versa, c'est ça qui est intéressant, des intersections qui ont souvent inspiré et continuent de le faire un des œuvres, des conclusions innovantes qui remettent en question notre compréhension du monde et nous invitent à envisager de nouvelles perspectives sur la réalité.
Dans un second temps, Fabrice, nous resterons dans le monde des arts, investissant nos territoires ruraux, en compagnie d'Élodie Pinet, enseignante de la filière arts plastiques et arts appliqués de l'Université de Corse.
Sabienza, l'invité.
Émission orchestrée par Doumé Mourati. À nos micros, donc Charles-Antoine, bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour. Bonjour, merci Charles. De m'avoir invité à cette émission que j'aime beaucoup.
Charles-Antoine, pour commencer, la quantique pour les nuls, qu'est-ce qui distingue la physique que l'on peut qualifier de classique et la physique quantique? La manière de voir les choses?
Oui, il y a la manière de voir les choses et puis plus profondément, la physique quantique, ça a vraiment été une révolution dans notre façon de voir le monde. En fait, cette physique quantique, elle a révélé un monde assez mystérieux et fascinant où les lois de la physique classique ne s'appliquent plus. C'est plusieurs choses, la physique quantique. Hein. C'est d'abord une théorie scientifique, comme il en existe beaucoup d'autres, hein, mais avec la relativité d'Einstein, elle fait partie des deux grandes théories sur lesquelles s'appuient toutes les autres théories. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi un cadre conceptuel sur lequel se fonde la plupart de nos raisonnements scientifiques depuis une centaine d'années, puisque la physique quantique, elle est née en réponse à des questionnements et des résultats d'expériences et d'observations qui n'étaient pas compréhensibles il y a à peu près 120 ans par le cadre de la physique classique qui était donc très bien connu et considéré comme étant la référence à la fin de ce 19e siècle. Et parmi tous ces résultats d'expériences et d'observations, certains ont vraiment poussé les scientifiques à sortir du cadre, à sortir de leur pensée classique, intuitive, et donc d'inventer une nouvelle physique.
Est-ce que vous nous donneriez, pour que ce soit vraiment clair, un exemple ?
Alors, il existe tout un tas de faits quantiques. Par exemple, l'existence des atomes, rien que ça, c'est quelque chose de complètement contre-intuitif du point de vue de la physique classique, même si c'est devenu complètement intuitif pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, un des grands physiciens du XXe siècle, Richard Feynman, très, très grand passeur de science également, disait que si jamais la Terre devait être détruite et qu'on avait la possibilité que de donner une seule petite phrase à des futures générations, ce serait simplement de dire que la matière est faite d'atomes. Parce qu'à partir de là, on peut décliner, on peut creuser et développer tout ce qui a fait la physique quantique. Donc, juste le fait que la matière est faite de petits grains qu'on ne peut pas couper en des demi-grains, donc les atomes. Mais sinon, le fait que, avec simplement le nom de cette mécanique quantique ou de cette physique quantique, le mot quantique, qui vient du latin, hein, qui veut dire combien ou compter au départ, mais qui aujourd'hui a l'acception de petits grains, et sous-entendu petits grains d'énergie. Donc la quantification de l'énergie, en fait. Donc de l'énergie de la lumière, après ces petits grains d'énergie, on les a appelés des photons, et la quantification de l'énergie des atomes, qui est assez troublante, parce que cela veut dire que chaque atome, chaque grain de matière se comporte comme une sorte de code barre énergétique avec que certaines énergies, donc quantifiées, discrètes, c'est-à-dire qu'on peut repérer par un nombre entier, 1, 2, 3, 4, 5. Et ce code barre qui est propre à chaque atome, qu'il soit sur Terre ou au fin fond de l'univers, pour arriver à le comprendre, on est contraint d'utiliser une théorie différente de la théorie de la physique classique, c'est-à-dire la mécanique classique qui nous explique comment un objet tombe, si je lâche un stylo, il va tomber par terre, mais qui explique aussi de façon assez paradoxale pourquoi la Lune, elle, ne tombe pas sur la Terre. L'électromagnétisme, avec la lumière, le champ magnétique, le champ électrique, etc., tout ce cadre de la physique classique ne permet pas de comprendre pourquoi les énergies de la matière, au niveau des atomes et des molécules, ne peuvent prendre que certaines valeurs, ce qu'on appelle la quantification. Et il y a d'autres aspects, donc on parle aussi souvent de la dualité onde-corpuscule, c'est-à-dire le fait que la lumière peut être vue, c'est-à-dire être vue au sens observé, mesuré expérimentalement, soit avec des propriétés ondulatoires, donc on parle d'ondes lumineuses, mais également comme une assemblée de petits grains d'énergie qu'on appelle les photons, et on a la même chose, peut-être encore moins intuitif pour la matière, sous forme de petits grains, donc les atomes, mais également avec des propriétés ondulatoires, et on arrive à faire avec les atomes et les molécules, d'une façon générale, avec tout ce qu'on peut maîtriser en termes de grains de matière, on arrive à faire avec ces grains de matière tout ce qu'on sait faire pour les autres types d'ondes, comme les ondes sonores. Par exemple, quand vous avez une onde sonore dans une pièce, comme maintenant peut-être vos auditeurs, eh bien ils peuvent entendre un petit peu ce qui se passe de l'autre côté d'un mur. Eh bien, cette transmission à travers un mur, eh bien, on sait le faire aussi avec des grains de matière, grâce à leurs propriétés ondulatoires. Et cet effet de traverser les murs, ce qu'on appelle l'effet tunnel, parce qu'au début, on pensait qu'il y avait une espèce de petit tunnel un peu magique, un peu subtil et abstrait, qui pouvait se créer dans les obstacles rencontrés par ces ondes de matière. Eh bien, cet effet tunnel, ce n'est pas que moi qui le pense, mais c'est un consensus mondial, cet effet tunnel est sans doute l'effet quantique qui a eu le plus d'impact sur nos vies, puisque c'est lui qui est responsable de la compréhension de l'énergie nucléaire, de la compréhension de l'électronique et donc de toute l'informatique autour de nous et de plein d'autres choses.
Est-ce que du coup, Charles-Antoine, avec cette arrivée de la physique quantique dans la compréhension des choses et cette science qui a évolué sur cette matière, on peut dire qu'on a affaire à un monde qui n'est pas indépendant de notre regard, un monde à jamais voilé?
Exactement. Cette expression est vraiment idéalement forgée pour la physique quantique et plus généralement pour toutes ce qu'on appelle la physique moderne qui s'est développée au cours du XXe siècle. Cette dépendance de ce que l'on peut obtenir, alors voir ou regarder, ça fait référence à quelque chose sur lequel on reviendra peut-être, mais ça fait référence à des mots du langage commun, et la physique quantique en particulier, mais la physique moderne au sens général, utilise les mots du langage commun avec d'autres acceptions, d'autres significations. Donc il faut faire attention, quand on dit voir ou regarder, c'est plutôt au sens d'observer, mais au sens d'une expérience, c'est-à-dire avec des appareils expérimentaux pour observer, mesurer, faire des vraies mesures. Donc à la rigueur, il faudrait mieux utiliser le mot appareil de mesure ou d'observation qui rend mieux compte de ça. Mais effectivement, la physique quantique a mis à jour quelque chose que la physique classique n'avait pas vu et compris, ou en tout cas n'avait pas vraiment senti la profondeur de ce que ça pouvait contenir, c'est-à-dire le fait que notre observation du monde n'est pas objective. La physique quantique nous dit que, en tout cas à l'aune des connaissances que l'on a aujourd'hui, que c'est illusoire de penser, d'imaginer un monde indépendant de nos moyens de l'observer. Et donc, notre façon d'observer les choses, dans l'infiniment petit, mais même à plus grande échelle, va modifier, d'une façon qui n'est pas réductible à zéro, qu'on ne peut pas éliminer, va modifier les choses que l'on observe. Et donc, par une logique toute simple, hein, puisque ce que l'on observe, on le modifie, eh bien, on ne peut jamais avoir accès à une sorte d'idéal, on pourrait dire platonicien même, qui serait indépendant de nous et de nos appareils de mesure. Et donc, c'est pour ça qu'on emploie ce terme réel voilé ou réalité voilée pour dire, en fait, on va pouvoir atteindre une connaissance de quelque chose, mais ce quelque chose n'est pas accessible complètement à nos mesures, et ce à quoi on a accès n'est pas indépendant de nous. Et donc on a coutume aussi de dire que finalement on a accès à la physique quantique a mis à jour le fait que Il existe plein de mondes, une multiplicité de mondes, une infinité de mondes, des mondes mathématiques, abstraits, on en reparlera sans doute, qui soulèvent la question du langage pour les décrire, mais également la question de notre monde réel à nous, autour de nous, et de se dire, mais en fait, le monde que l'on observe n'est pas indépendant de nous.
Et c'est sans doute en cela que collaborer avec certains artistes qui expriment dans certaines de leurs œuvres, jouant avec la perception et la subjectivité de la réalité, vous intéresse pour expliquer la physique quantique ?
Exactement, mais c'est pas que moi. Hein. Dès la création de la physique quantique au début du XXe siècle, donc la physique quantique, on va bientôt fêter son centenaire officiel de la formulation mathématique. C'était entre 1925 et 1927, mais on peut dire que ça a été une évolution et une construction lente tout au cours de la première moitié du XXe siècle.
Sabiens, chaque semaine sur RCFM.
Senza le porte me spende, a vita passe bene e agita chi s'accende. A ritmanta estate con la sciabola in mano, sempre pronto a fa parte due verte di l'umano. Dimmi due lo di porta o entaggio chi ti stia.
Charles, Serge Antoine est notre invité en qualité de docteur en physique théorique, chercheur au laboratoire de physique théorique de la matière condensée, maître de conférences également. On vous doit aussi, on y reviendra plus tard, un spectacle. Parce que, Charles Antoine, ce qui vous intéresse aujourd'hui dans la transmission, dans ce métier-là, de professeur notamment, c'est de faire comprendre la physique quantique en passant par l'art. On a commencé à le dire il y a un petit instant, et vous faites des ponts entre l'histoire de l'art et la physique quantique et les différents courants artistiques, Charles-Antoine.
Exactement, exactement. J'essaye, à mon humble niveau, de transmettre mes passions, donc en particulier cette passion pour la science et encore plus particulièrement pour la physique quantique, de différentes façons et de toutes les façons possibles. Donc évidemment, à l'université ou alors sous forme de conférences. J'étais venu ici à Galéa où j'avais pris un grand plaisir à parler au public du parc Galéa. Mais également donc sous différentes formes, donc des livres pour différents publics. Là, je travaille sur un livre pour enfants, sur une bande dessinée également, mais aussi en créant donc un spectacle art-science qui mélange donc qui essaie de raconter d'une façon un peu théâtrale, mais très très précise quand même. C'est pas complètement didactique, mais c'est pas complètement une conférence non plus. Et puis, je suis accompagné sur scène par un artiste très talentueux qui s'appelle Paul Kishilov, qui est un graveur à la base, mais qui peint et qui dessine de façon merveilleuse et qui dessine en direct ce que je peux raconter, en tout cas une évocation de ce que je peux raconter, et sous une forme volontairement décalée, c'est-à-dire que c'est un spectacle équestre. Comme un peu le spectacle de Bartabas, un spectacle équestre mais dessiné en direct sous les yeux des spectateurs et au son de musique grandiose, et généralement donc partout où on passe, la salle est comble et les gens en prennent plein les yeux, les oreilles et les neurones, et ils sont, sans mauvais jeu de mots, désarçonnés et pour leur grand plaisir.
Ça veut dire que les œuvres de cet artiste performeur naissent sous leurs yeux avec vos explications?
Exactement, c'est par séquence.
Équipanto.
Exactement, équipanto, comme équestre et puis quantique, équipanto. Donc on a fait une représentation dernièrement, là, on en a fait une douzaine au total pour l'instant, on en a fait une dernière à Paris au Théâtre de la Reine Blanche, et c'était vraiment, vraiment exceptionnel. Et cette envie d'aller vers d'autres publics et d'autres façons de transmettre, c'est vraiment quelque chose qui m'anime beaucoup. Alors je ne suis pas le seul, il y a plein de gens qui soient scientifiques, soit artistes, qui vont vers cette physique moderne, en particulier la physique quantique, pour essayer de la transmettre, de la passer. Moi, j'essaie de me définir à moindre mesure, mais comme passeur de science. Et je suis complètement d'accord avec Étienne Klein, donc un grand vulgarisateur français depuis des années, qui faisait le constat il y a quelques années que la vulgarisation scientifique, même si ce mot est un peu péjoratif, mais en tout cas la transmission de la science, a tendance à trop concerner toujours le même public. Typiquement, des gens qui ont fait des études de science, soit au lycée, soit en prépa, ou à l'université, ou dans des écoles d'ingénieurs, et qui sont un peu frustrés, puisque dans leur métier, après, ils n'utilisent généralement que la règle de 3, et qui, donc, sont un public très avide. Donc, c'est bien pour moi, pour nous, ils viennent acheter les livres que l'on peut faire de vulgarisation, comme celui que j'ai fait, là, Schrödinger à la plage, mais également aux conférences, etc. Mais c'est pas suffisant, parce que, quand j'ai dit tout à l'heure que la physique quantique, c'était une théorie, et l'une des deux grandes théories, et aussi un cadre conceptuel, c'est aussi, et c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui d'aller atteindre d'autres publics, c'est aussi une révolution, une double révolution. Une première révolution qui a amené quasiment tout ce qu'on manipule autour de nous, et puis depuis une vingtaine, trentaine d'années, une deuxième plutôt on devrait dire, révolution quantique à grands coups de cryptographie quantique, de capteurs quantiques, et surtout d'ordinateurs quantiques. Et les arts sont un moyen d'atteindre d'autres publics, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que dès la création de la physique quantique, dans les années 20, la formalisation de la physique quantique, et de grands scientifiques fondateurs de cette science ont tout de suite compris que les mathématiques seules n'étaient pas suffisantes, qu'il faudrait utiliser d'autres langages, et par exemple le langage artistique. Donc Paoli, par exemple, qui n'est pas corse, hein, mais des grands scientifiques de la physique quantique, disait que c'était sans doute le seul moyen de rendre concrètes les subtiles et étranges métaphores de la physique quantique. Et donc il y a tout un tas d'artistes qui se sont emparés des mystères et merveilles de la physique quantique, mais également tout un tas de scientifiques ces dernières années, depuis une trentaine d'années, qui font chemin inverse et qui vont vers les arts, soit en créant eux-mêmes, soit en collaborant avec des artistes. Il y a une résidence d'artistes régulière qui est au CERN, à Genève, dans les grands instituts du monde, généralement également. Et c'est pas juste pour faire joli. C'est pas juste pour dire on a le 1% pour les artistes. Non, non, pas du tout. C'est vraiment pour parce qu'il y a une prise de conscience de se dire que pour arriver à mieux comprendre, au sens étymologique du terme, comprendre, pour qu'on puisse le prendre avec nous, le comprendre vraiment dans les tripes, cette science qui est si désarçonnante, qui nous dit des choses tellement bizarres, le fait d'avoir des superpositions de plusieurs choses en même temps qui nous semblent à nous, de façon intuitive, complètement contradictoire, le fait d'être à deux endroits à la fois ou dans deux états de mouvement complètement différents, eh bien, d'arriver à pouvoir comprendre ces mystères-là, eh bien, l'art peut être une voie, et pas simplement pour faire joli, mais pour vraiment comprendre bien mieux et avoir une expertise bien plus fine.
Alors, si Schrödinger faisait de la physique quantique depuis son transat, comme vous venez de nous l'apprendre, il rencontrait aussi beaucoup d'artistes, tout comme d'autres scientifiques. Et il y a peut-être des coïncidences, en sont-elles d'ailleurs, dans l'histoire de l'art, qui correspondent aussi à de grandes découvertes côté physique quantique.
Exactement, c'est vraiment un domaine qui me passionne, moi, de voir toutes les résonances qu'il y a pu y avoir, alors au cours des siècles évidemment, hein, mais pour cette fin du 19e siècle et début du 20e siècle, avec la naissance des deux grandes théories scientifiques, en tout cas de la physique, que sont la physique quantique et la relativité, on a pu voir, des résonances entre ces révolutions scientifiques et d'autres révolutions culturelles de la connaissance. Et donc, par exemple, lorsque en 1900, on observait la quantification et l'existence d'atomes, eh bien, les artistes avaient commencé à révolutionner l'art avec le pointillisme, par exemple, et dans le cadre du cercle de Vienne. Puis après, quand on a cassé ces atomes, eh bien, c'était en complète résonance avec le cubisme, avec Picasso, avec Debussy, même au niveau musique également. Il y avait beaucoup de choses sur la musique atonale, sur donc Stravinsky, Schoenberg, etc. C'est l'histoire de sauts quantiques aussi, des sauts quantiques hors de l'espace et hors du temps qui nous troublent beaucoup, nous, scientifiques. Et donc, il y a eu beaucoup de résonances, même vers d'autres domaines que les arts, vers le design, vers la philosophie du langage. Par exemple, Wittgenstein, en 1921, avec son Tractatus, il pose la question du langage. Là, donc Francis Bacon l'avait déjà exposé et lui avait une sorte d'idéal de pouvoir nettoyer, purifier le langage pour qu'il n'y ait plus que des mots et des termes scientifiques pour exprimer tout. Eh bien, la physique quantique est venue balayer ça en disant non, pas du tout. Il y a non seulement des domaines qui échappent à la description scientifique, comme les domaines comme la beauté, l'amour, la politique, l'éthique, la morale, etc. Mais il y a des domaines au sein même de cette science supposée complètement descriptive ou descriptible, il y a des domaines qui échappent au langage. Et donc les résonances avec les révolutions culturelles dans cette première moitié du XXe siècle sont vraiment frappantes. Alors il n'y a pas forcément un lien de causalité entre ces révolutions, mais tout le moins il y avait une grande inspiration. Et oui, comme vous disiez, la plupart des grands scientifiques de l'époque, donc Einstein, Bohr, Niels Bohr, Schrödinger, Pauli, Heisenberg, etc., avaient des liens très forts avec tout le monde culturel de l'époque. Et c'était pas juste des liens comme ça, dire bonjour, bonsoir dans une soirée. Ils avaient des liens, ils s'invitaient, ils passaient du temps les uns chez les autres, ils écrivaient des livres ensemble, ils faisaient des correspondances. Là, je regardais il n'y a pas longtemps une correspondance entre Bohm et Biedermann, où ils ont changé plus de 4000 lettres, donc Bohm, un des grands physiciens aussi de la physique quantique. Et donc, il y avait vraiment cette appétence, cette envie d'aller vers d'autres façons de penser. Puisque, en fait, la physique quantique, ce qu'elle nous dit, c'est que le monde que l'on observe est un monde différent, complètement différent, de ce que l'on pouvait penser. Et en fait, cette logique de décrire d'autres mondes, des autres mondes, en fait, elle est vieille comme le début de l'humanité. Hein. Alors évidemment, au début de l'humanité, on parlait pas de scientifiques, on parlait de chamans, de mages, de sorciers, puis après c'était plutôt des philosophes, puis aujourd'hui on appelle ça des scientifiques, mais ce sont des gens qui essayent de rendre compte, de comprendre et de transmettre l'invisible. Et l'invisible, c'est un autre monde. Et la physique quantique, elle a fait exploser ces autres mondes, et naturellement, les scientifiques de la création de la physique quantique, donc début du XXe siècle, se sont tournés vers les gens qui exploraient eux-mêmes d'autres mondes, c'est-à-dire les poètes, les artistes, et d'une façon générale, tous les gens très impliqués dans le développement de la connaissance.
Vous écoutez Sabianza sur RCFM. Soyez les bienvenus, nous sommes aux côtés de Charles-Antoine.
Sabianza, l'émission de tous les savoirs sur RCFM.
Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs. La tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Sabianza sur Avriguanza Mora, comme chaque lundi à 13h et 21h, s'intéresse aujourd'hui avec un invité, Charles-Antoine, à la physique quantique et aux liens qui peuvent exister entre science et art.
Faisons le plein de connaissances dans Sabianza sur RCFM.
Un invité qui a une phrase qu'il aime bien, c'est ces petits grains de sable sur les choses sûres. Sans jeu de mots ou avec d'ailleurs, un petit grain de sable sur les choses sûres. Pour lui, on est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins, selon vous, véritablement, Charles-Antoine, sur ces questions-là?
Oui, oui, vraiment, là, depuis une trentaine d'années, de plus en plus. Comme je disais tout à l'heure, là, il y a vraiment une double démarche, à la fois de la part des artistes, mais aussi des scientifiques. Avec ce souci de développer d'autres langages, de promouvoir, d'imaginer, de créer d'autres langages. D'ailleurs, c'est amusant de voir que au moment où on a ce développement également de l'informatique quantique avec l'ordinateur quantique en proue, on développe également au sein même de la physique quantique pure et dure, sans parler de poésie ou d'art, on développe des langages et on a besoin de développer d'autres langages. Et cette question de la difficulté du monolinguisme. Elle a été pensée très tôt et aujourd'hui elle est vraiment, vraiment patente et prégnante et en fait c'est assez logique. Tous ces autres mondes que l'on met en évidence, eh bien, ça nécessite d'autres langages. Et en fait les différentes langues, en Corse j'imagine que vous êtes bien placé pour le savoir, ça ouvre différentes façons de saisir le monde et de dire des choses vraies à son sujet. D'ailleurs, c'est pour ça que les traductions ont souvent besoin d'importer des mots étrangers, des idées, des modes de pensée, pour rendre l'original dans le nouveau contexte. Et on a besoin d'un bilinguisme, en fait. Au minimum d'un bilinguisme, c'est-à-dire d'arrêter de vouloir extraire un seul sens de la complexité, que ce soit d'une théorie, d'une science, mais d'une œuvre aussi, d'une notion, et donc de redonner, de revenir à un langage peut-être plus poétique et surtout imaginatif, créatif, pour pouvoir inspirer à la fois les artistes, mais également les scientifiques, qui parfois sont devant des équations ou des résultats qui les laissent bouche bée au sens vrai du terme. Et pour dépasser ce silence, alors le silence est bien, je suis en train de lire un livre de Bartabas, le dernier là, qui est magnifique, Un geste vers le bas, et dans lequel il dit que le silence est le langage vertueux des chevaux et de la danse, mais pour aller au-delà, pour le transmettre, donc moi j'aime bien ça, puisque j'ai créé aussi avec mon ami ce spectacle Equiquanto, qui est une sorte de mélange de spectacle aussi équestre dessiné, mais d'aller vers d'autres langages, et surtout d'encourager la pluralité, de même qu'il y a une pluralité de perception, d'aller vers une pluralité de langage, de description et d'interprétation. Et d'ailleurs, cette pluralité des descriptions mathématiques et des interprétations, elle est au cœur de la physique quantique même. Aujourd'hui, il n'y a pas une interprétation particulière de la physique quantique, il y a tout un ensemble d'interprétations qui sont d'une certaine façon complémentaires, et même pour lesquelles on pourrait dire que cette pluralité, qui peut sembler être un problème, en fait est peut-être la solution. Et donc il y a plein de scientifiques aujourd'hui et d'artistes qui essaient de converger vers un nouveau langage qui ferait appel donc à beaucoup plus de créativité, d'imagination et de vagabondage, comme aussi aime à le dire Carlo Rovelli. Typiquement, un sculpteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Julian Vossandre, qui est un physicien qui a fait sa thèse et le début de ses recherches avec le prix Nobel l'an dernier, Anton Zeilinger, l'Autrichien, qui a eu le prix Nobel aussi avec Alain Aspect, le Français, qui crée des sculptures qui essaie d'illustrer le principe de complémentarité, c'est-à-dire qu'on a deux choses contradictoires simultanément avec des sculptures qui peuvent se voir en les regardant d'une certaine façon et qui disparaissent avec un autre angle de vue. Il y a Anthony Gormley qui aussi, c'est pareil, qui essaie de créer, d'un point de vue sculpture, des énormes sculptures qui semblent complètement aléatoires pour rendre compte de cet aléatoire de la physique quantique, mais quand on les regarde de plus près, ou en tout cas quand on les regarde un peu mieux, on voit qu'il y a un ordre, il y a des visages ou des formes qui apparaissent. Il y a Cornelia Parker aussi qui essaie de figer des explosions. Donc, par exemple, elle fait exploser une cabane, elle prend tout ça avec une caméra ultra rapide, elle ramasse tous les bouts, et après elle prend une image de sa caméra ultra rapide, et avec plein d'installations, elle recrée ce moment où tout était en train d'exploser, quoi. Mais sinon, donc ça c'est des sculptures, mais il y a plein d'installations immersives, interactives, évidemment les arts numériques et digitaux, par exemple Ryoji Ikeda, un japonais qui fait plein de choses là-dedans, il y a Raphaël Lozano-Henner qui fait une Pulse Room où c'est une installation artistique qui va répondre à la présence et au regard du spectateur. D'ailleurs, il y a une exposition en ce moment à Paris, au CNAP, qui est justement, ça s'appelle Les Formes du Temps, qui est absolument géniale, où des artistes, sans forcément le savoir, illustrent de la physique quantique, un peu comme Pina Bausch, d'ailleurs, dans le livre de Bartabas, sur sa relation avec Pina Bausch, et Pina Bausch, finalement, dans la danse, elle faisait ça, en fait, sans le savoir.
Et un peu comme à l'époque, Picasso, avec ses horloges molles, hein, était là...
Dali, carrément.
Et était là au moment où on parlait du temps et de cette notion de temps, est-ce qu'il existe bien, et avec toute cette quantique derrière, et derrière ce questionnement en l'occurrence. Vous parliez tout à l'heure, c'est intéressant, hein, je voulais juste vous relancer là-dessus, d'ordinateur quantique. C'est vrai qu'on n'entend parler que de ça en ce moment. Et au Canada, vous précisiez en préparant cette émission, eh bien, qu'il y a une résidence d'artistes qui se fait au sein même d'un laboratoire de scientifiques travaillant sur cette chose extrêmement sérieuse qu'est l'ordinateur quantique, donc l'invitation d'artistes pour permettre précisément aux scientifiques de faire des pas de côté avec quelqu'un, ben voilà, qui serait un petit peu dans la fourmilière et qui leur ferait diverger le regard.
Exactement, c'est vraiment ce mouvement de fond qu'on observe de ces dernières années, dernières décennies là, c'est vraiment, on revient à quelque chose qui me plaît beaucoup, moi, c'est un éloge de la différence, en fait, de la différence, ne pas, on parlait du vagabondage, ça en fait partie, mais que cette différence de pensée, différence de conception, d'ailleurs qui est un trait généralement des grands scientifiques, Nicolas Martin de France Culture, et qui est maintenant éditeur aux Arènes, a écrit un livre il n'y a pas longtemps justement sur ça, sur ce qui faisait la créativité des grands scientifiques, et généralement ce qu'il y avait derrière, c'est la différence et cette volonté d'aller vers autre chose. Et c'est clair que typiquement donc au Canada, avec au Québec surtout, ils ont vraiment, ils incitent vraiment, ils sont très à la pointe déjà en termes d'informatique quantique, mais ils œuvrent pour mélanger le plus possible les genres et les personnalités, et donc d'amener exactement ça, les scientifiques, à faire un pas de côté, à penser un peu différemment, à... Bien sûr, il faut faire attention aux abus, évidemment. Il y a des écueils, des abus, des dangers, qu'ils soient volontaires ou involontaires. On a vu dernièrement avec Gerlin et la crème quantique, là, mais il y a toujours des abus, parfois sans le savoir. Il y a tout un tas de biais cognitifs qui entrent en jeu, que ce soit d'ailleurs pour les novices, les néophytes, mais aussi pour les experts, que ce soit pour le public, les experts, mais aussi pour les passeurs, comme moi. D'ailleurs, en novembre dernier, j'ai participé à une session au Théâtre de la Ville avec un neuroscientifique, Albert Moukébert, sur la question de la transmission et d'avoir ce point de vue un peu méta au-dessus pour comprendre quels étaient les tenants et aboutissants et les écueils et les dangers de la transmission scientifique, est-ce qu'il pouvait passer ou ne pas passer. Mais c'est clair que c'est une lame de fond, j'ai l'impression vraiment d'intérêt, même purement par simple ouverture d'esprit. Typiquement dans la BD, il y a Andreas, un auteur que j'aime beaucoup, mais dans les livres, évidemment, tout le monde connaît, enfin, en tout cas beaucoup de gens connaissent Borges, qui a vraiment exploré le monde de la physique quantique. Alors en ce moment, c'est assez médiatique avec cet écrivain chinois avec qui a écrit Le problème à trois corps, Liu Cixin, dont il y a une série sur Netflix en ce moment même. Mais alors, on n'est pas forcément adepte de Liu Cixin dans l'absolu, puisqu'il prend quelques libertés. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vient changer la donne, vraiment, au même titre que cette deuxième révolution quantique est en train de changer la donne au niveau langage. En fait, on observe comme une sorte de ricochet 100 ans après, suite à la création de la physique quantique dans les années 1920, et bien aujourd'hui, on est vraiment dans cette recherche de nouveaux langages et de nouvelles voies d'exploration et d'expression.
Différence, transdisciplinarité, décloisonnement entre artistes et scientifiques, ce sont des notions que vous abordez avec vos étudiants pour faire comprendre cette physique quantique qui réinvente la réalité ou qui fait voler en éclats nos certitudes ou notre perception des mondes.
Exactement. Pareil, je suis... alors, généralement, j'ai un bon contact avec mes étudiants, j'essaye de leur... à la fois de leur donner des... parce que ça, c'est une gageure, hein, évidemment, et il faut leur donner des bases très solides, et justement, on réfléchit à savoir comment faire pour dépasser les manques et les soucis qu'il peut y avoir dans les études des scientifiques, des futurs scientifiques ou des étudiants qui se destinent à avoir une petite maîtrise quand même de la physique quantique. Mais c'est clair que d'arriver à leur donner en même temps des bases solides, mathématiques, et de compréhension fine de la physique qu'il y a derrière, mais également de les ouvrir à d'autres choses et de leur faire comprendre que, par exemple, il n'y a pas qu'une seule interprétation de la physique quantique. Et d'ailleurs, on est un peu en retard en France là-dessus, mais dans les pays anglo-saxons, il y a ce qu'on appelle un domaine de la didactique. Alors ça existe aussi en France, mais beaucoup plus d'ailleurs pour les maths que pour la physique. Mais pour la physique quantique en particulier, dans les pays anglo-saxons, ils ont étudié, ils ont fait des tests pour voir ce qui marchait en termes de transmission universitaire. Et en particulier, quelque chose qui est assez contre-intuitif, en tout cas pour nous en France, c'est d'aller vers des choses beaucoup plus complexes. Et donc justement, d'être dans cette logique de ne pas réduire la complexité à une seule signification, mais de laisser la complexité aux étudiants. Et donc de leur parler, par exemple, des différentes interprétations qui sont actuellement sur la table pour la physique quantique. Et au lieu de se dire que ça allait peut-être les brouiller, les embrouiller, ces étudiants, eh bien, ils se sont aperçus qu'en fait, ça pouvait les aider à mieux comprendre et peut-être à être rassurés du fait qu'ils ne comprenaient pas tout, rassurés du fait que les scientifiques non plus n'étaient pas d'accord entre eux sur ce que pouvait dire la physique quantique sur le monde et la signification réelle de ce qu'elle peut dire sur l'univers.
Ce fut une bien belle émission à vos côtés que nous avons passée, Charles-Antoine.
Je confirme.
C'était très agréable de vous écouter sur ces sujets aujourd'hui dans Sabiens. À une prochaine fois, j'espère.
À une prochaine, avec grand plaisir.
Merci beaucoup Charles, à bientôt.
Merci à vous.
Chaque semaine sur RCFM.
Dove i soldi van giù, svalutation, svalutation. Io amore mio non capisco perché, cerco per le ferie un posto al mare, non c'è svalutation, svalutation, col salario di un mese compri solo un caffè, gli stadi sono greviti ma la grana dov'è, svalutation. Siamo in crisi ma senza andare in là, l'America è qua.
In automobile a destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è, svalutation. Valutation.
Io amore mio non capisco perché, tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me, sulle station, sulle station. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è, si vive più di armi che di pane perché assassination, assassination. Ma questa Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà. E il sistema c'è, quando pensi a te, pensa.
Adriano Celentano dans Sabienza avec Svalutation.
Sabienza, l'invité.
Deuxième invité, Élodie Pinet, enseignante de la filière art plastique et art appliqué de l'Université de Corse. Élodie, vous êtes issue d'une famille d'artistes, d'architectes, de professeurs. Vous êtes originaire du Niolo. Vous avez suivi quasiment toute votre scolarité à Corté, avec un pas de côté à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et vous enseignez depuis 2004. Et vous êtes surtout convaincue par l'importance de l'art et de la culture dans le rural, Élodie.
Oui, en effet. Bah, écoutez... Moi, j'ai grandi entre Corté et l'Aude. Et puis, après le bac, j'ai commencé mes études à l'université à Corté. Et je suis partie ensuite finir mes études à Paris à la Sorbonne. Et j'ai eu mon CAPES là-bas. Et je suis restée sur le continent en tout pendant 12 ans, en revenant très régulièrement. Et surtout, quand je revenais, bah, du coup, c'était dans mon village principalement, quoi.
Voilà. Village, donc, vous avez souhaité emmener la création artistique du 1er janvier au 31 décembre. C'est important.
Exactement. Oui. Oui, oui, oui. Mais on a créé une association. Bon, le porteur de projet, c'est vraiment Fabien Flore, et c'est celui qui a initié le projet.
Popular Art.
Popular Art, exactement. Et bon, moi, je suis là en soutien. Depuis qu'il est parti, là, je gère un peu techniquement des choses qu'on arrive à se répartir entre la Turquie et l'autre, et du coup. Et on accueille des artistes. Les premiers artistes sont arrivés le 6 janvier. Ils sont restés un mois en résidence à l'autre. On les a fait venir par par l'Institut français, par un des instituts, l'Institut français de Rome. Et du coup, on est passé par le Grand Nouveau Tour. D'autres structures encore sont aussi fait venir des artistes, comme Casellarte, par exemple. Je sais qu'on avait des artistes à peu près en même temps. Et du coup, c'est intéressant, ça crée des interactions, des échanges. Et voilà, on a eu deux artistes qui ont travaillé avec les scolaires. L'avantage de travailler l'hiver, c'est que du coup, on peut aussi faire une sensibilisation, une éducation au regard pour les scolaires. Donc, il y a eu un workshop d'une journée à l'école de Calagouche. Les enfants ont travaillé à partir de matériaux naturels qu'ils ont récupérés avec les artistes. Et ensuite, ils ont fait des estampes. Donc, c'est une technique qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de faire à l'école. Donc, c'est toujours bien d'essayer de décloisonner un peu les enseignements, de travailler autrement.
Avec, voilà. Avec l'art qui, effectivement, va jusqu'au village, et vous l'avez dit, l'importance toute l'année de l'éducation au regard, notamment des nouvelles générations. Quel type d'artistes vous accueillez en termes de discipline? On dira plutôt des plasticiens, sculpteurs?
Alors, nous, paradoxalement, on a un festival d'art urbain, mais dans le rural. Et les artistes qu'on accueille sont plutôt des peintres. On a aussi eu des sculpteurs. Et là, les deux jeunes qu'on a reçus, par exemple, en janvier, ils sont, viennent de Carrare et d'une école de Carrare et travaillent le marbre, du coup, quand ils sont là-bas. Mais ce sont aussi deux jeunes qui font de la gravure, qui font de l'estampe. Et ce sont plutôt des techniques traditionnelles. Donc, ça a été assez facile d'initier les élèves, en fait, à ces techniques-là, parce que finalement, il n'y a pas besoin d'énormément de matériel pour pouvoir travailler. Mais par exemple, là, le 20 avril, on reprend. Du coup, on part sur Barquette. Et là, on accueille un artiste qui fait de la peinture murale. C'est un muraliste. Donc, il fait des grandes peintures. Et ensuite, on aura au mois de juin et juillet un artiste à Spelonkato qui travaille à la bombe, qui fait des peintures monumentales. On aura une artiste à Loti qui fait de la peinture traditionnelle aussi muraliste. Et je cherche le dernier, je n'ai plus en tête. Ah oui, et ensuite, dans le Cap Corse, on en aura deux. Une qui travaille en faisant du pointillisme, et qui sera à Massinaggio, et un autre qui sera à Luri, et qui fait du coup, lui, de la peinture plutôt traditionnelle.
Lozzi, Elodie Pinet, mais également Volpaiola, oui. Où vous soutenez la démarche Artelogo.
Exactement, oui. Alors en fait, comme on avait initié ce projet Popolarte, qui a commencé à s'étendre un peu vers le Cap Corse, vers la Balagne pour l'instant, j'ai un ami, Patrick Vignoli, qui est aussi très engagé, hein, parce que en discutant, on disait déjà que vivre au village, c'était déjà en fait un acte militant, en fait. Hein. Donc comme on s'entendait beaucoup là-dessus, lui, il avait vraiment envie de dynamiser son village. Il avait l'impression qu'il y avait un peu une perte de lien, donc il avait envie de recréer tout ça. Et donc lui, il est plutôt issu des arts de la scène. Hein. Il a énormément d'expérience au sein de Tempos Fugit, qui est un groupe de polyphonie. Il fait partie des membres fondateurs de Librimonde. Donc c'est quelqu'un qui, pareil, aime décloisonner aussi les arts et la culture. Et donc, il a eu envie de créer cette association qui s'appelle Artelogo. Donc il m'a demandé un coup de main pour l'aider. Bon, lui, il reste directeur artistique, en fait, de l'association pour la programmation. On en discute tous les deux. C'est lui qui fait des choix finaux parce que il est vraiment dans son village. Donc, je pense que lui, il sait vraiment quelles sont les attentes. Et Artelogo, en fait, c'est une association un peu différente parce que finalement, elle est un peu sur tous les fronts. Hein. Ça peut être des opéras pour réhabiliter
ouvrir des sentiers.
Voilà, exactement. Ça peut être. On a reçu, par exemple, en mars. Avec un peu de retard, du coup, Babu Nadal et Omulitso, donc pièce de théâtre plutôt comique. Il y a eu des stages de flamenco, par exemple, dans lesquels les paysannes ont pu être initiés au flamenco. Il y a eu, par exemple, un spectacle de danse appelé Lujan y Luna, dans lequel en fait des femmes du village ont pu travailler avec Laetitia Brigui, par exemple, qui ont du coup elles ont pu participer complètement au spectacle. Donc voilà, il y a toujours cette volonté de faire en sorte que les gens soient le plus impliqués possible dans la programmation, hein. Donc on est un peu sur tous les fronts, il y a des expositions aussi artistiques, on utilise beaucoup l'église parce que du coup là-bas il y a une salle des fêtes et l'église, mais c'est aussi un partenariat avec les communes attenantes, Skolka par exemple, donc avec des concerts de guitare, de violon, enfin voilà, il y a un peu de tout quoi.
Élodie Pinet, merci de nous avoir dit combien était important l'art et la culture dans le rural. Bonne journée à vous et à bientôt dans Sabiense.
Merci beaucoup, bonne journée.
Fabrice.
Je ne sais pas ce que vous allez dire. Vous étiez ni art ni physique quantique. Maintenant, vous êtes beaucoup plus art et physique quantique.
Je suis les deux, mon capitaine. Ouais. Et je suis presque cyberattaque.
Mon Dieu, vous me faites peur. Ça fait référence à quoi?
Cyberpirate?
Oui.
On n'en parle pas?
Si, si vous voulez. J'aurais du mal à faire de l'autopromotion, alors je vous laisse.
Oh là là.
Oui, je reçois un drôle
le
de...
faux modeste. Je c'est reçois... un drôle de personnage non, quand mais même. C'est on peut s'y arrêter quelques instants.
C'est vrai, et si vous voulez y aller, c'est vrai que ce dimanche, dans quelques jours, on accueille peut-être au Parc Galéa la personnalité la plus étonnante qu'on ait jamais invitée. En fait, c'est un jeune homme qui, dès 12 ans, a commencé à pirater les ordinateurs les plus puissants du monde entier, qui est rentré dans les banques les plus secrètes aux États-Unis via son propre ordi dans sa chambre.
Ça lui a coûté cher, d'ailleurs.
Ça lui a coûté d'être poursuivi par Interpol pendant des années, qui ont réussi à mettre la main dessus. Il a fait quelques années de prison malheureusement, donc il était à la tête de réseaux finalement très jeunes de cyberpiraterie internationale, et aujourd'hui il est repenti, et il raconte, et il aide notamment les gouvernements, et il raconte comment est-ce qu'on peut aider précisément à lutter contre la cyberpiraterie qu'on retrouve partout en ce moment, hein, de nos propres comptes bancaires au compte informatique le plus important. Voilà, et donc lui, il va nous expliquer comment ça se passe de l'autre côté du décor ce dimanche au Parc Galéa.
Et c'est à 15h, comme toutes les grandes conférences, souvent précédées à 14h de votre partenariat avec l'Université de Corse. Et dans Rijerk, vous recevrez Antonia Di Maggi Grassigni, maître de conférence et juriste, qui nous parlera justement du droit international face à la cyberguerre.
Beaucoup plus autour du droit, mais déjà dans la question de la cybersécurité.
Dans le prolongement, donc, vous aurez droit à entrer dans la peau d'un cyberpirate, Florent Curtet, en l'occurrence. Merci Fabrice.
Merci à vous Isabelle, à bientôt.
Lundi,
avec grand plaisir.
13h et 21h, ça c'est pour le direct. Et sinon, les podcasts, c'est quand vous le voulez, sur bleurcfm.fr.